Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Un conte fantastique, deux biopics, un thriller politique et un thriller psychologique. Et puis une interview, celle de Thomas Kruithof, le réalisateur de La mécanique de l'ombre, un film d'espionnage à la française avec un François Cluzet impeccable. Voilà le programme de Cinérama. Alors on parlera de deux autres films qui sortent le 11 janvier. Marine évoquera eh bien, le biopic très attendu, celui de Dalida. Quant à moi, je vous parlerai du succès de Sundance 2016, The Birth of Nation, mis au point sur la période esclavagiste aux États-Unis. Et toi, Manu, deux films.
Oui, Nocturnal Animals, du créateur de mode Tom Ford, qui en a son second film, et puis Quelques heures avant minuit, un film fantastique d'un espagnol.
Et on commence avec The Birth of Nation.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
C'est l'un des grands gagnants du festival de Sundance, le festival qui se démarque de la grosse machine hollywoodienne. The Birth of Nation de Nat Parker y a remporté le prix du jury et le prix du public. Le film qui raconte un soulèvement sanglant d'esclaves noirs américains au début du 19e siècle aurait pu être un sérieux prétendant à la victoire aux Oscars, mais c'était sans compter le déterrage d'une vieille affaire de mœurs mettant en cause l'acteur-réalisateur, qui depuis a été acquitté, et le scénariste du film. Alors, en résumé, la distribution aux États-Unis a beaucoup moins bien fonctionné que Rogue One. Pourtant, même si The Birth of Nation n'est pas sans défaut, il a déjà un intérêt, c'est réhabiliter une figure contestataire qui a émergé en 1830 dans les États du sud des USA où l'esclavage était un rouage de l'économie du coton. Alors nous sommes 30 ans avant la guerre de sécession, Nat Turner est un esclave qui sait lire, mais son seul livre est la Bible. Il devient donc prédicateur, un homme très écouté qui, en compagnie de son maître, qui est plutôt bienveillant, eh bien, va bientôt faire le tour des propriétés de coton. Les Blancs ont de plus en plus de mal à soumettre les esclaves et pensent que la parole biblique annoncée par un noir peut les garder eh bien, dans la servilité. Nat Turner devient un pion des propriétaires blancs, une situation qui ne va pas durer. L'homme qui s'est marié va subir un drame personnel et ne plus supporter l'injustice criante autour de lui. Il y a de la rébellion dans l'air.
Nous avons toujours été bons avec toi, toute ma famille. Et toi, en échange, tu oses me faire une chose pareille ? Un nègre s'amuse à baptiser un blanc sur ma propriété ? Tu t'imagines un peu de quoi j'ai l'air ? Ça pourrait réduire à néant tous nos efforts. Trouve vite quelque chose à dire pour te justifier.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, pour nourrir l'Église de Dieu qu'il a acquise avec son propre sang.
Exhorte les serviteurs à obéir à leur propre maître et à leur faire plaisir en toutes choses, à ne pas...
Vous avez été acheté à un prix. Ne devenez pas esclave des hommes.
Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais le pardon, mais est en danger.
Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais qui au-dedans ne sont que des loups voraces.
Alors, on a l'impression d'entendre Abdelmalik. Pour ceux qui le connaissent, c'est effectivement Abdelmalik. C'est lui qui fait la version française. Alors, on est là dans un point de basculement de The Birth of Nation, un titre qui fait référence donc à la première grande production américaine du cinéma, le film de 1915 de D.W. Griffith, voilà. Un film jugé raciste et ségrationniste. Hein. En résumé, les Noirs y sont peints comme des esclaves ou des criminels stupides, hantés vraiment par l'obsession du vol, du viol et du meurtre, tandis que le Ku Klux Klan est héroïque. Voilà.
Ah oui, c'est un hymne réel au Ku Klux Klan. Si le film est important, c'est parce que c'est cinématographiquement très fort, puisque c'est un des premiers films à avoir mis en place, notamment le montage alterné. Mmh. Et voilà, en termes de narration, c'est un grand film. En termes idéologiques, c'est ignoble.
Notamment, il est adapté d'un livre qui évidemment ferait polémique maintenant. Alors, mais aucune comparaison ne peut être trouvée avec le film de Griffith. Disons qu'évidemment, il rééquilibre les points de vue, et si les traits qu'il utilise sont moins grossiers, il s'agit quand même de mettre une claque. Dans l'Amérique de 1830, l'esclave noir en bave, des sévices physiques au viol en passant par un travail de tous les instants, le réalisateur s'applique à montrer l'asservissement et la violence qui l'accompagnent. Du côté de l'homme blanc, peu ont le beau rôle, et même ceux dont on sent qu'ils ont conscience que l'esclavage n'est pas moral, eh bien, ils ne bougent pas. La mise au point du réalisateur sur cette page de l'histoire américaine est salutaire, mais de l'horreur d'une condition d'esclave, nous allons basculer dans l'horreur des combats sanglants, quand le personnage principal comprend que les paroles de la Bible sont un outil d'oppression autant que de révolte, eh bien il va soulever ses frères. Tête coupée, massacre, le réalisateur ne nous épargne pas grand-chose et affiche une certaine complaisance dans la représentation de la violence. Alors si le personnage de Nat Turner a bien existé, il semblerait que le réalisateur n'ait pas suivi à la lettre la biographie de ce meneur de révolte. Le plus important et qu'on en parle encore maintenant, alors qu'aux États-Unis, eh bien, des Noirs meurent sous les balles policières. Pour autant, si The Birth of Nation a des qualités, agissant comme un film de réhabilitation, ces qualités ne sont pas vraiment cinématographiques. Il n'a pas la force d'un 12 Years a Slave de Steve McQueen. Il s'approche trop d'un film hollywoodien, sans nuance pour émouvoir. On tombe presque dans le revenge movie avec le code masculiniste. Ici, c'est le viol d'une esclave qui va déclencher en partie la révolte, comme s'ils étaient touchés dans leur virilité. Le point de vue de la femme esclave est quelque peu écarté. La thématique du texte versatile aurait pu être plus habilement traitée, le texte sacré ou non, comme moyen de contraindre les individus, voilà qui est pourtant intéressant. Cette thématique ne fait l'objet que d'une joute verbale entre un pasteur blanc corrompu et Nat Turner, à l'issue de laquelle il va prendre une dérouillée. C'est l'extrait qu'on a écouté. Alors, dans la forme, il y a quelque chose de pesant, où 12 Years a Slave était prenant sans être divertissant. Et alors là, la musique est le plus gros raté du film, peut-être. Elle apparaît à tout va et semble vraiment composé sans envie. Pour autant, c'est vrai que ça revient sur un moment important de l'histoire des États-Unis et de l'histoire de l'esclavage. C'est The Birth of Nation et ça sort le 11 janvier.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, dès le générique, Nocturnal Animals s'impose de manière un peu trop visible quand même, comme une expérience filmique singulière. Alors, des femmes obèses, et là je pèse mes mots, vraiment énormes, et nues, se trémoussent au ralenti sur une musique enivrante qui n'est pas sans évoquer les partitions d'Angelo Badalamenti, le compositeur attitré de David Lynch. Alors d'ailleurs, l'ombre écrasante du réalisateur de Mulholland Drive plane sur ce deuxième long métrage du créateur de mode Tom Ford, entre cauchemar réveillé et satire appuyée du monde de l'art qui n'en finit plus de se regarder le nombril. Alors, fin du générique, d'emblée, Tom Ford démontre la vacuité esthétique et morale des installations modernes, car ces grosses bonnes femmes en fait faisaient partie d'une installation d'art plastique. Alors, d'emblée, les grosses bonbonnes qui se dandinaient comme des majorettes font partie d'une expo décadente d'une galeriste d'art de Los Angeles, Suzanne Moreau. Alors, cette dernière s'ennuie dans son existence convenue de bourgeoise délaissée par un mari riche et volage. Elle reçoit un jour un colis pour le moins inattendu contenant un manuscrit, Nocturnal Animals, signé par son ex-mari, Edward Sheffield. Une note accompagne le livre, invitant donc la jeune femme à lire son ouvrage et ensuite à le contacter pour une éventuelle rencontre. Alors elle se plonge dans la lecture du roman qui épouse les formes d'un thriller texan, violent et âpre, Alors, un film dans le film, contrastant avec la forme glaciale et rutilante d'un univers imbu de sa superficialité. Alors, après Single Man, Tom Ford continue d'interroger son statut de créateur, n'hésitant pas à sabrer le monde qui l'a modelé, à se livrer à une véritable introspection, questionnant sa propre position dans le microcosme de l'art. Alors, il se pose un peu les questions, est-il un artiste ou un imposteur ? En tout cas, on peut dire qu'un vrai cinéaste est né, assez élégant et roublard. Il enchevêtre habilement les récits, alors entre passé, présent et fiction, avec un réel savoir-faire. Sa plongée imaginaire dans l'univers du polar sudiste débute par ailleurs sous les meilleurs auspices, avec un Jack Gyllenhaal une fois de plus impressionnant, dans un double rôle, puisqu'il incarne à la fois le personnage fictif et l'écrivain. Alors la première d'ailleurs altercation entre la famille et puis les trois types assez provocants instaure vraiment un climat particulièrement oppressant.
Soir, ça va ?
Bonsoir.
On doit s'arrêter normalement quand il y a un accident.
Oui, je sais.
Alors pourquoi tu l'as pas fait ? Fatigue pas. Y a pas de réseau ici. Faut pas se tirer quand on a un accident, c'est interdit.
Vous avez vu comment vous conduisiez ?
Qu'est-ce que tu dis ?
Je dis que vous conduisiez comme un fou.
Hey, Turk !
N'approchez pas.
C'est bon, écoutez, chérie, ça va aller, ça va.
Remontez dans votre voiture et laissez-nous tranquilles.
Du calme, on va faire un constat, c'est tout.
Ça va,
calme.
La maison, chérie, c'est qu'une lampe.
Regarde-moi ça.
Tout va bien.
Dis donc, il reprend soin de ça.
Nom de Dieu.
Ok, alors on va échanger nos infos.
Nos infos?
Oui.
Nos infos, c'est parti.
Tu peux regarder dans la boîte à gants.
Alors, je suis Gémeaux, ma couleur préférée c'est le vieux rose, j'adore la randonnée et les chatons.
Regarde ça, trop.
Quelle ambiance autour de cette voiture.
Alors ça démarre très bien, hein, mais c'est dommage, l'intrigue qui peut ressembler rapidement, on va dire, à une sorte de survival un peu décadent. Alors ce délit est sombre vraiment dans la caricature, notamment lorsqu'apparaît un flic interprété par Michael Shannon, tout droit, un flic assez grotesque, tout droit sorti d'un film de Tarantino. Alors le récit là, devient plus absurde, et une question quand même se pose, ce film-là qui navigue un peu en eau trouble entre drame passionnel et pastiche de polar, de film dans le film et des va-et-vient entre le réel et l'imaginaire, est-il vraiment sérieux? Tom Ford ne nous invite-t-il pas à un jeu, hein, casse-gueule, hein, de mise en abîme, laissant exploser une vision ultra cynique du monde de l'art frappé par sa propre vanité? Car franchement, le roman que la galeriste est en train de lire chaque soir est un ramassis de clichés, un scénario de série B éventé pour Charles Bronson des années 80. Alors, l'histoire n'a d'intérêt, et elle en a, qu'en relation avec la réalité, en tant que pure métaphore vengeresque sur la manière dont Suzanne a largué son ex. Alors toute la question, au-delà d'une réelle satire du monde, d'un monde artificiel déconnecté de la réalité, est de savoir si Tom Ford aborde son film au premier ou au second degré. Alors parfois, une réelle empathie envers l'héroïne transperce derrière ses belles images cristallines et ses décors clinquants, quand il braque sa caméra sur le visage mélancolique de Suzanne, Nocturnal Animals émeut. Alors beaucoup moins en revanche lors des querelles amoureuses entre Suzanne et l'écrivain. Ça, ce sont des séquences qui sont issues du passé. Hein. Des moments opposant la jeune arriviste au véritable artiste qui au final n'en est pas vraiment. Hein. Alors comme le dit un moment Suzanne, ce que tu écris m'ennuie au plus profond. Alors l'expression de l'art ou du cochon sied parfaitement à Nocturnal Animals, hein, jusqu'à son dénouement très ironique. Alors au premier degré, le film paraît étonnamment manichéen, opposant la vraie création à la fumisterie. Et au second degré, en revanche, il devient une sorte de pamphlet nihiliste renvoyant dos à dos le pseudo-écrivain torturé et les bouffons de l'art contemporain. Alors bref, une œuvre ambiguë, mais je ne sais pas comment l'aborder en fait. Puisque j'ai discuté avec des gens, certaines personnes ont trouvé le film assez caricatural et pensent que Tom Ford n'a pas cette intelligence que pourrait avoir un Cronenberg ou un Lynch. Et moi, je l'ai plutôt vu sur un versant plutôt positif, en pensant que c'est un grand film, un peu une grande mise en abîme, un grand film ironique. Enfin, pas un grand film, hein, parce que c'est pas totalement réussi, mais vraiment une expérience assez intéressante.
En tout cas, il était conscient de ce qu'il faisait. Et ce film est sur les écrans depuis le 4 janvier. Un film, en revanche, sort le 11 janvier. C'est La Mécanique de l'ombre, dont nous allons parler tout de suite.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Duval, interprété par François Cluzet, fait un burn-out. On ne comprend pas tout de suite l'ampleur du problème, mais le voilà purement et simplement mis sur la touche, sans emploi, sans vie sociale non plus, excepté ses rencontres avec les alcooliques anonymes. Et bien Duval aimerait raccrocher tous les wagons. Il est contacté par un homme mystérieux, un certain Clément, qui a ses bureaux à La Défense, à Paris, interprété par Denis Podalydès. Il se voit proposer une mission, retranscrire des écoutes téléphoniques. Même si l'affaire Snowden et les écoutes de la NSA ne sont pas passées par là, et bien son commanditaire a horreur du numérique. Aussi, il se rend dans un appartement vide du Val où on lui apporte des cassettes audio et il tape tout à la machine. Le travail est simple et bien rémunéré, mais pas sans contraintes. Il y a un protocole à suivre, n'être en contact avec personne, ne pas fumer ou encore ne pas parler aux voisins. Avec ce nouveau boulot, le voilà propulsé au cœur d'un engrenage qui engage son pays. Du burn-out à l'abattement, Duval va peu à peu remonter en pression. Avec La Mécanique de l'ombre, nous avons affaire à un thriller politique qui embarque un monsieur tout le monde dans les hautes sphères du pouvoir. Le réalisateur prend le parti de revenir à une esthétique des années 70 où ce genre de film était plus en vogue. Les lieux, la lumière, les sons, les objets, comme ce lecteur à cassette et la machine à écrire, on ajoute aussi les cadres et le montage construisent un enfermement jusqu'à une scène finale extrêmement ouverte. La Mécanique de l'ombre fait du bien à voir dans le cinéma français actuel. Alors, avant de décrire les meurtres mœurs du pouvoir, il plonge le spectateur dans une perspective morale. Duval, le personnage, se doute bien qu'il fait quelque chose qui coûte à quelqu'un. Entre Duval qui retranscrit les messages, les services secrets et les commanditaires, eh bien, la responsabilité se dilue sans que tout le monde soit coupable. On écoute le réalisateur de La mécanique de l'ombre, Thomas Kruithof. S'il a réalisé des courts-métrages, eh bien, c'est son premier film et il en co-signe le scénario.
J'arrive pas à dormir.
Ouais, je m'appelle Thomas Kruithof.
J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre.
Et j'ai réalisé La mécanique de l'ombre, qui sort le 11 janvier avec François Cluzet, Denis Podalydès, Samy Boisgila, Simon Abkarian et Alba Rohrwarer.
Ce qui peut frapper, c'est tout d'abord un casting impressionnant, vous venez de les citer. Comment on arrive à faire ça dès le premier coup ?
Bah, je sais pas, j'ai pas du tout de recette et j'ai pas du tout de recul là-dessus. J'ai juste envoyé mon scénario à François Cluzet et il a accepté de le faire. Et puis après, le casting s'est constitué au fur et à mesure. J'ai essayé d'avoir Samy Boisgila, puis Denis Podalydès. Enfin voilà. Moi, c'est un des côtés magiques du film de voir ces acteurs les uns face aux autres et comment ils ont interagi ou comment ils ont. Le jeu des uns a interpénétré le jeu de l'autre.
Il faut que je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée, comme tout le monde.
Monsieur Duval, je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi.
Comment vous avez eu mon numéro ?
Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Le numérique m'inspire la plus grande méfiance. C'est pourquoi j'ai toujours privilégié le papier et la machine à écrire.
Allô ? Allô ?
Pour bâtir cette histoire, parce que vous avez aussi co-écrit le scénario, qu'est-ce que vous vouliez absolument mettre et qu'on voit finalement dans le film ?
Moi, ce que j'aime dans ces films-là, c'est les films qui jouent avec le spectateur. On vous fait vous poser des questions tout le temps. Enfin, quand je vais avec François sur le tournage, on disait on va faire travailler le spectateur, quoi. On va pas trop en donner à cet endroit-là. On lui fait collecter les bouts. Donc ça c'est un peu l'expérience que je voulais, mais je voulais aussi une expérience immersive pour le spectateur. On se met vraiment à la place d'un personnage qui est joué par François Cluzet. On en sait autant que lui. On ressent ce qu'il ressent et on voit comment il va se positionner par rapport à tous les événements qui traversent dans le film. Donc il y avait ça, cette espèce d'expérience immersive et puis ce jeu du film de suspense. Et puis après il y avait deux autres choses. Moi ça m'intéressait d'avoir un personnage mutique, un peu distancié de sa propre vie et très obéissant, et de raconter une courbe qui va de l'obéissance vers la désobéissance. Et ça m'intéressait aussi de faire un film d'espionnage pas fort en technologie, pas fort en cascade, même si, je veux dire, on voit qu'il y a des moments où il y a de l'action dans le film, mais on fait pas Mission Impossible. Et surtout, je trouvais ça intéressant de revenir sans gadget à la machine à écrire, à toute cette... Tout ce côté un petit peu archaïque, mais qui peut aujourd'hui, avec les craintes qu'on a par rapport au numérique, rassurer les gens dont l'obsession est le contrôle, quoi.
Quand on sait que Snowden vient de sortir, d'Oliver Stone, et qu'on sait qu'effectivement la NSA écoutait via les téléphones portables, les emails, vous montrez effectivement machine à écrire, une cassette audio qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et je ne sais pas si le cinéma a montré l'intérieur d'une cassette audio comme ça, avec la piste de bande magnétique. Enfin, il y a une espèce de fascination comme ça dans l'image sur ces objets vintage, oui.
C'est pas vraiment parce qu'ils sont vintage, mais après, je vais être franc, moi, la machine à écrire avec la boule, enfin, avec la boule qui tape, moi, je trouve ça super beau. Je suis assez fasciné par cette mécanique. Mais il y avait plusieurs choses. Déjà, je trouvais que ça avait du sens par rapport au film d'espionnage, de dire, tiens, on revient à des modes complètement analogiques, parce que c'est beaucoup plus contrôlable et beaucoup plus protégeable. Et puis, j'écrivais tout ça, et puis Snowden est arrivé. Et ça a un peu confirmé, parce qu'à la suite de Snowden, je ne sais jamais si c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de bruit comme quoi le KGB avait racheté, le FSB, qui est le nouveau KGB, avait racheté des machines à écrire, traçables. Ça a été débattu aussi au Parlement allemand, comme quoi il y a un certain nombre de communications ne devaient plus exister que sous format papier. Enfin voilà, il y avait d'un côté ce retour-là. Donc ce contexte-là qui me plaisait. Et puis à côté, la chose des objets dans le film, et aussi pourquoi je les traite souvent en gros plan, voire en très gros plan. Moi, j'avais envie de raconter aussi que notre personnage fait un travail un petit peu archaïque avec des machines qui dominent, mais il fait un peu que un avec la machine. Il est un peu comme un ouvrier très spécialisé. Je voulais aller au fond. Il travaille tous les jours dans un appartement, il retranscrit des écoutes, il y a ses cassettes qui tournent, elles passent les unes après les autres. autres. C'est toutes ces répétitions qui sont sonores, des bruits, des machines, et aussi des éléments, et de cette... voilà, comme si on travaille dans une usine et qu'on entend une grosse machine outil à côté de nous. Et ben moi j'ai un peu forcé le coup avec cette machine à écrire. Je voulais qu'à la fin, enfin à un endroit du film, le mec devienne un peu un homme machine quoi, jusqu'à finalement aussi se rendre compte que dans ces enregistrements, dans ce qui se passe, et je pense qu'on le ressent, de la violence peut naître, soit dans ce qu'on entend. C'est aussi pour ça que je vais en gros plan, puis je vais peut-être encore plus en gros plan à un endroit quand les choses se gâtent, quoi.
Clément, il choisit bien ses hommes, tu sais. Si t'as choisi, c'est que t'es fait pour ce boulot.
Mais je sais rien de toi. Je sais même pas ce que tu fais comme job.
Parce que c'est pas intéressant.
Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval ?
Qui sont les gens que vous avez mis sur écoute ?
Il faut des informations tangibles.
Vous êtes sûr qu'ils sont pas en train de nous écouter ? Vous ne recevez d'ordre que de moi, c'est clair ?
Sans nous, vous n'en sortirez pas vivant.
C'est un mec forcément, le personnage joué par François Cluzet, s'il a une dépression, il va pas aller chez le psy. Tu vois, il va se dire, bah oui, donc t'as des tas de choses qui font que tu bois, et puis tout d'un coup t'as arrêté de boire, et tu te dis, bon, en fait ça va, j'ai plus besoin que t'aies un travail. Et puis c'est plus compliqué que ça, tu vois. Par contre, je voulais montrer progressivement, et puis ça, je pense que François le montre très très bien physiquement, comment le mec sort progressivement de ses gonds, quoi. Comment il devient de plus en plus attaqué, et de plus en plus animal. Et c'est un travail qu'on a essayé de faire jour après jour pour faire ces progressions qui est un peu psychologique, mais aussi physique, et aussi physique sur le visage, et voilà.
Les gens qui ne connaissent pas leurs limites finissent toujours par créer des problèmes. Vous, Duval, vous connaissez bien vos limites.
Excellent jeu de Denis Podalydès et puis aussi de François Cluzet, un jeu tout en retenue, comme l'a expliqué Thomas Kruithof, le réalisateur de La mécanique de l'ombre, film qui sort le 11 janvier, tout comme Dalida, et là on n'est plus dans la retenue. Parce qu'il s'agit quand même de jouer un personnage exubérant. C'est un biopic très attendu et c'est Marine qui nous en parle.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors qu'elle est au sommet de sa gloire, Yolanda Gigliotti, plus connue sous le nom de Dalida, tente de se suicider dans sa chambre d'hôtel. Ses producteurs, ses ex, sa famille défilent devant son psychiatre pour tenter de comprendre son geste. Et c'est alors l'occasion de retracer la vie de celle qui demeure l'une des plus célèbres chanteuses françaises.
Quand elle était petite... Elle était différente. Le regard des autres sur elle a été toujours important. Dalida n'est pas n'importe quelle femme.
Mademoiselle Dalida !
Monsieur Barclay va vous recevoir.
Nous souhaitons vous proposer un contrat.
J'ai eu qu'une obsession, c'est qu'elle devienne la meilleure.
Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi.
Magnifique.
Baisse sa main.
Tu peux descendre aussi vite que t'es montée. Ce que j'ai fait, je peux le défaire.
C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics.
Dalida, c'est 40 ans de carrière, 140 millions de disques vendus et 3 amants suicidés. Oui, 3 amants suicidés. Et on peut également d'ores et déjà dire que c'est également une tentative de biopic un peu foirée. Ce téléfilm de luxe est réalisé par Lisa Azuelos, à qui l'on doit LOL. Hein. Alors, on peut légitimement quand même se demander à quel moment des producteurs ont jugé judicieux de lui confier les rênes du biopic le plus attendu de l'année. Bref, le film est bien évidemment coproduit par Orlando, le frère de Dalida, qui est également son producteur et manager post-mortem, ce qui explique pas mal de choses, hein, comme par exemple qu'un spectacle hommage à Dalida sorte un jour après le film, ou encore que chaque scène du film comporte une chanson de Dalida, ce qui réduit considérablement les dialogues, mais qui augmente également considérablement les chances de sortir une compilation. Alors oui, Dalida a eu une vie tellement riche et mouvementée qu'il est difficile de tout condenser en un biopic, et encore plus difficile de réussir un biopic inspiré, qui ne soit pas une simple hagiographie ou transcription de sa page Wikipédia, mais Édith Piaf et Serge Gainsbourg ont eu des carrières tout aussi longues, et ça ne les a pas empêchés d'avoir des biopics à leur hauteur. Mais c'est peut-être justement qu'il y avait un auteur derrière tout cela. Dans Dalida, on oublie juste l'essentiel, la femme, et pourtant il y avait quand même là un sacré matériau pour faire un grand film. La comédienne Sveva Alviti fait sa part du travail, c'est-à-dire globalement sourire, sourire et encore sourire dans un film elliptique à outrance qui en plus possède les scènes de concert les moins immersives que j'ai pu voir de ma vie.
Je n'ai plus envie de vivre ma vie.
J'ai 34 ans.
Ma vie cesse quand.
Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant.
Je n'ai plus de vie et même.
Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens.
Se transforme en quai de
l'air. Moi, qui m'en donne ?
Tu t'en vas, je suis.
Dans Dalida, tout est clinquant et lisse. Les personnages défilent sans avoir le temps d'exister et surtout sans qu'un seul d'entre eux ne soit montré de façon nuancée. Dans Dalida, tout le monde est sympa. Bah oui, il faudrait pas risquer de contrarier ceux qui sont encore vivants. Hein. Et tout le monde est beau. Il n'y a dans le lot que Jean-Paul Rouve qui parvienne à sortir son épingle du jeu. Alors oui, on frissonne, on pleure, on a envie de danser, de chanter. Enfin, pour peu qu'on ne soit pas totalement allergique à la discographie de Dalida, évidemment. Mais tout cela est finalement aussi plat que le visage de Orlando après ses 34 liftings. Le film, finalement, démontre fort bien le talent de son personnage principal, mais il démontre également le manque de talent de sa réalisatrice.
Voilà, bon, Marine n'a pas aimé, c'était sa dernière chronique avant qu'elle ne revienne au mois de février, puisque tous les auditeurs qui se demandent mais finalement pourquoi Marine n'est jamais dans les studios avec nous en ce moment, eh bien c'est parce qu'elle est en voyage.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dis-moi, Connor O'Malley, que dois-je détruire maintenant ?
Quoi ?
Cela donne bien des satisfactions, je peux te l'assurer. Allez, Connor, dis-moi, que veux-tu que je détruise ?
La cheminée, on pourrait.
La cheminée ! Ensuite.
Quelques heures avant minuit, hein, Fable Fantastique est l'adaptation d'un roman pour enfants adapté au cinéma par l'auteur lui-même, Patrick Ness. Alors, vu l'inconsistance d'un scénario assez lacrymal et schématique, on doute vraiment de la pertinence littéraire de l'œuvre originale. Énorme succès néanmoins dans son pays d'origine, hein, l'Angleterre, mais totalement inconnu chez nous. Alors, en soi, le sujet en vaut un autre, hein, même si sur un thème similaire, Spike Jonze avec Max et les Maxi-Monstres et surtout Miyazaki avec Mon voisin Totoro livraient chacun à leur manière des films autrement plus fantaisistes et singuliers. Alors donc, un jeune garçon introverti et mal dans sa peau, maltraité par ses petits camarades, a de plus en plus de difficultés à supporter la maladie de sa mère atteinte d'un cancer. Il est aussi en conflit permanent avec sa grand-mère ultra rigide et souffre de l'absence de son père qui vit loin de lui. Bref, que des clichés pour l'instant. Hein. Chaque nuit, pour fuir ce quotidien brin pesant, il s'échappe au cœur d'un monde imaginaire où surgit un monstre, un arbre gigantesque qui va lui raconter des histoires, faire ressurgir la colère de l'enfant et amener ce dernier à affronter la vérité. On dirait presque l'adaptation littérale d'un livre illustré pour enfants, type grosse colère, avec tout le contenu pédagogique adéquat. Parce que si vous cherchez de l'ambiguïté, de la subtilité, passez votre chemin. Tout est surligné et répété jusqu'à la nausée dans quelques heures avant minuit. Alors, au cas où on n'aurait pas saisi le message très scolaire véhiculé tout au long du récit, le scénario répète inlassablement les mêmes motifs et ressorts dramatiques. Une séquence impressionne néanmoins, hein, lorsque le jeune garçon laisse littéralement exploser sa colère et saccage tout chez sa grand-mère. Une folie furieuse contamine alors le film, soudain porté par une violence cathartique. Alors, 1h50 quand même pour arriver à la conclusion bien moraliste qu'il faut regarder la vérité en face, c'est un peu court. Afin de masquer la vacuité du projet, que les enfants risquent sans doute de trouver d'ailleurs un peu trop long, Bayona déploie des trésors d'inventivité visuelle. Cinéaste plutôt doué, il accumule les travelling impressionnants et les plans ultra chiadés, créant ainsi une atmosphère gothique assez attractive. D'autant que la photographie d'inspiration victorienne est magnifique. Hélas, cette virtuosité technique n'aboutit à rien. Aucune émotion ne traverse ce récit d'apprentissage larmoyant et virant à force de maladresse du côté obscur de l'obscénité. Alors le mot peut paraître un peu fort, mais il faut beaucoup de tact pour filmer une personne atteinte d'une maladie incurable à quelques pas de la mort. Bayona n'évite pas le sentimentalisme dégoulinant à la sauce Spielberg dans ses mauvais jours, hein, ce qu'accentue une partition musicale envahissante et mièvre. Alors autre point faible, Si les effets spéciaux sont remarquables aussi bien en numérique qu'en animatronique, ils sont exhibés dès les premières minutes. Alors, erreur fatale qui ôte toute mystère et poésie au film. Il fallait instaurer une attente pour créer un désir, un suspense, alors en dévoilant rapidement l'arbre géant, qui assume un rôle d'ailleurs de psychanalyste pour enfants, on peut dire un petit peu, hein, parce qu'il lui dit un peu ce qu'il est, ce qui l'amène vers la vérité. Bayona banalise d'emblée une histoire déjà bien pesante. Alors, une déception, je trouve, de la part du réalisateur espagnol qui avait signé quand même L'Orphelinat, que j'aimais beaucoup, et puis The Impossible, qui était un film catastrophe plutôt réussi.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors si aujourd'hui nous avions eh bien, un réalisateur invité, la semaine prochaine ce sera trois. Il y aura Dominique Cabrera pour Corniche Kennedy, il y aura Stéphanie Pilonka-Carverne pour Fleur de Tonnerre, et puis Olivier Azam pour La Cigale, Le Corbeau et Les Poulets.